Bienvenue chez nous cet après-midi. 90 minutes le débat, ça commence juste après le flash de Mathieu Devez. C'est parti.
Deux trains sur trois rouleront ce week-end avec la grève des contrôleurs. Ils réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité du métier. Environ 200 000 personnes ne devraient pas pouvoir voyager sur 800 000 prévus dans les trains ce week-end. Les clients recevront par SMS et courriel des informations sur leur voyage. La Fédération française de football va porter plainte après des messages racistes visant des joueurs de l'équipe. Des messages publiés sur les réseaux sociaux lors de la finale du mondial entre la France et l'Argentine. Parmi les joueurs visés, Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni qui ont manqué leur tir au but. En Argentine, les champions du monde ont été accueillis par une foule immense. Des milliers de supporters venus près de l'aéroport avant une communion dans les rues de Buenos Aires. La journée de mardi a d'ailleurs été décrétée fériée.
C'est parti pour notre émission et au sommaire aujourd'hui nous parlerons du phénomène des squats d'immeubles avec, vous l'entendrez, des témoignages à la clé quand les cages d'escalier d'immeubles vétustes sont occupées par des dealers peu précautionneux, sans compter les risques que ça comporte bien évidemment, sachant que l'enquête à Vaux-en-Velin est toujours en cours, écoutez.
Vous voyez, j'essaie de barricader ma porte pour mettre un rideau, pour plus sentir cette fumée. J'ai mis des trucs en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez. Vous regarderez, ils ont marqué MAMS ou je sais pas quoi. Ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver dans une des cités. Hein.
Une petite coupe et tout va. Nous parlerons bien sûr du Qatar qui finit par être salué pour l'organisation de la compétition. Faut-il pour autant oublier les conditions dans lesquelles la Coupe du Monde a été attribuée puis mise sur pied? On écoute.
Organisation parfaite. C'était exceptionnel et on sent que c'est organisé depuis un très long moment.
On a été très surpris en fait. On a eu tellement de chance avant de partir que finalement, ouais, l'organisation exceptionnelle, tous les supporters réunis ensemble, on n'a vu aucune violence.
Enfin, l'Île-de-France confrontée à une recrudescence inquiétante des attaques homophobes, plus 115% ces derniers mois avec des pièges tendus aux personnes homosexuelles qui sont de plus en plus sournois.
On se pose toujours la question de est-ce qu'il y a plus d'agressions ou est-ce que la parole se libère et qu'on a plus de victimes. En tout cas, l'important, c'est qu'on a finalement ce nombre de plaintes qui est en hausse. Donc, au moins, on a une meilleure connaissance de ces physionomies. Et à minima, elle renvoie une réalité de plus en plus parlante de ce qu'est l'homophobie sur le terrain, de ce qu'est l'homophobie subie au quotidien par nos concitoyens. Et donc, la réalité de ce qu'il y a aujourd'hui en France sur cette thématique.
Et pour m'accompagner, aujourd'hui, on accueille Georges Fenech, consultant CNews. Je suis ravie de vous retrouver, Georges. Ça faisait un petit moment, effectivement, que vous n'étiez pas passé sur notre plateau. À vos côtés, Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bienvenue. Bonjour. À vous également. Ainsi que Ludovic Thoreau, médecin et maire UDI de Coubron. C'est dans le 93. Nous allons...
Bonjour.
Commencer cette émission en parlant de l'écologie. La cause écologiste en particulier mérite-t-elle des actions punitives et radicales? Qui sont donc ces groupes qui se livrent à des sabotages, des saccages en série au nom de l'éveil des consciences? Ça n'est plus une tendance, mais bel et bien des statistiques inquiétantes. Notez qu'il y a eu 104 actions violentes répertoriées en seulement 10 mois cette année, et ce, dans des régions tout à fait différentes. On va le voir dans un instant. Et dans leur viseur, toujours... les agriculteurs. On va d'ailleurs écouter Christiane Lambert pour la FNSEA.
Oui, en France, et pas que pour l'agriculture, on le voit, ceux qui vont se coller sur la route, sur les tableaux, qui jettent de la soupe sur les tableaux. Mais qu'est-ce que c'est cette radicalité de l'écologie? Au nom de quoi? Ceux qui désertent au lieu de dire « je vais contribuer ». Vous savez, moi je suis agricultrice, je suis dans une activité du temps long. Il y a ceux qui parlent et qui voudraient que tout change d'un claquement de doigts. Moi je sais que quand on sème un blé, il faut 9 mois pour avoir un blé nouveau, etc., etc. Les agriculteurs sont au travail pour ces changements, mais ceux qui veulent tout de suite ne connaissent pas l'agriculture.
Et nous sommes en direct avec François Pétorin, qui est administrateur à la coopérative de l'eau dans les Deux-Sèvres. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. Alors vous êtes évidemment, quand on parle des Deux-Sèvres, vous êtes particulièrement concerné par l'action du collectif Anti-Bassine à Sainte-Soline. Mais plus largement, quel regard est-ce que vous portez sur toutes ces actions? Quand certains disent c'est de l'éco-résistance, est-ce que vous allez jusqu'à dire c'est de l'éco-terrorisme en réalité?
Disons qu'effectivement, on trouve qu'ils sont rendus dans de la radicalité. Aujourd'hui, ils sont dans l'opposition et la destruction. Il n'y a pas de dialogue. Eux, ils considèrent que leur action de destruction est légitime. Donc, c'est une radicalité forte et qui impacte beaucoup aujourd'hui les agriculteurs. Hein, mais comme on a entendu Mme Lambert aussi, dans d'autres activités telles que la Farge encore il n'y a pas longtemps, voilà. Mmh. Effectivement, c'est des écologistes radicaux aujourd'hui.
Alors, il y a des coûts financiers hein, pour ceux qui sont touchés, des dégâts matériels. On l'a vu encore chez Lafarge, dans les Bouches-du-Rhône, il y a quelques jours seulement. Il y a des menaces sur les vies humaines également. Est-ce que vous allez comme jusqu'à dire, comme le vice-président de l'Assemblée des maires de France, que ça va mal finir ? Est-ce que c'est votre crainte également ?
Ben effectivement, on ne peut pas nier. C'est une crainte qui peut y avoir dans les campagnes ou dans d'autres usines hein, quand ça arrive. Effectivement, si un jour il y a un face-à-face, on ne sait pas quelle réaction d'un côté ou de l'autre il peut y avoir. Donc on a, nous, en tant qu'agriculteurs ou au niveau de la coopérative de l'eau, on a toujours appelé au calme. Effectivement, face à ces pressions violentes, de dégradation des biens privés, professionnels, des harcèlements vis-à-vis de certaines personnes, effectivement, on ne sait jamais où est la limite.
On parlait de la recrudescence, du fait que ça ait bondi, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'adhésion à ces actions radicales de plus en plus, y compris chez des militants qui peut-être n'étaient pas convertis à ces méthodes jusqu'ici. Pourquoi ces individus sont-ils devenus aussi déterminés, idéologues ? Il y a vraiment un phénomène d'entraînement ?
Oui, effectivement, je pense que c'est un mouvement de masse, un mouvement, alors aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça va très vite, donc une phrase est mise et voilà, aujourd'hui tout le monde suit la phrase, sans connaître le fond du problème ou de la cause vraiment à défendre. Donc effectivement, c'est un effet de masse très très important qui se développe.
Merci beaucoup François Pétorin d'avoir répondu à nos questions en direct cet après-midi. On va élargir le débat sur le plateau. Peut-être souhaitez-vous rester en notre compagnie, qui sait, pour poser d'autres questions, y compris à nos invités. Georges Fenech, ce phénomène que je décris là et dont nous parlions à l'instant, ça commence à inquiéter sérieusement les services. C'est dire, c'est-à-dire que maintenant, j'imagine qu'il y a une cellule en charge de la surveillance de ces individus qui sont mouvants, qui sont bien organisés, qui sont dotés de matériel et puis surtout qui sont soutenus financièrement. Et ça, c'est inquiétant.
Ces mouvements sont surveillés depuis longtemps déjà par la DGSI. Il y a effectivement une menace particulièrement grave, notamment le renseignement territorial. Hein. C'est les fameuses fiches S d'ailleurs. Hein. Ce sont les zadistes, ces écologistes radicaux qui sont effectivement surveillés par nos services, qui essayent d'abord de prévenir des actions violentes, de les déceler, et puis de faire en sorte qu'on intervienne avant qu'un drame ne puisse se produire. Alors, financer, oui, il y a des financements. Hein, il y a des financements par des personnalités internationales, il y a des financements plus ou moins occultes, hein, c'est évident. Mais nous sommes là sur des mouvements qui ne respectent pas la loi, qui enfreignent donc la loi volontairement, avec des actions d'une violence inouïe, quelquefois, comme on l'a vu, vous l'avez rappelé pour l'affaire des bassines, et qui se manifestent sur plan, je dirais, mondial, par des actions du style on dégrade des tableaux de maîtres d'art, de Van Gogh, souvenez-vous. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de dénonciation véritablement politique de ces mouvements. Si on a entendu M. Darmanin dire il s'agit d'éco-terrorisme, enfin, il n'y a pas. Et même Yannick Jadot qui semble rejoindre maintenant un petit peu ces actions un peu radicales, ouais. Ce qui est quand même un peu étonnant. Donc il faut que chacun respecte l'autre. On est sur la même planète. Les agriculteurs ont le droit de vivre de leur travail d'une certaine façon, plus écologique. Il faut avancer ensemble et non pas se radicaliser de cette façon-là.
Ludovic Thoreau, il parle de dénonciation. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà et carrément intenter des actions ? Ou alors couper les vivres, se poser peut-être la question du financement. Il faut aussi que le regard judiciaire se porte là-dessus. Il y a des dissolutions qui sont possibles.
Alors, oui, mais de toute façon, quand vous faites une dissolution, il y a un autre qui apparaîtra derrière. La problématique, vous l'avez dit, c'est l'échec d'Europe Écologie Les Verts et tous les partis verts depuis longtemps. Donc sur la base, on a un échec national sur l'environnement. Donc il y a une base vraie. Jadot, il bouge pas parce que comme il n'a rien fait, il va préférer envoyer les autres devant. Néanmoins, la société est violente. Dès qu'on trouvera une excuse pour faire de la violence, on le fera. Donc si vous voulez, l'écologie en faisant ça n'attirera pas l'adhésion des Français. C'est très bien, les autres, on ne va pas être vers la violence. D'accord ? On en a assez de la violence un jour ou l'autre. D'accord ? Maintenant, je suis désolé, ils sont hors la loi, ils sont hors la loi. Qu'ils fassent de l'écologie, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils sont hors la loi. Problème, comme vous le dites, personne leur dit que c'est pas bien et personne leur met des sanctions. Ben, ça va continuer. Comme tous les problèmes qu'on a en France. Si vous ne coupez pas à la base aujourd'hui ce qui se passe là, on se donne rendez-vous dans 6 mois. Et vous verrez comment ça se passait au beau temps.
Vous avez, en tant que maire, parce que je parlais du vice-président de l'Assemblée des maires de France, je ne sais pas si dans votre commune, en Seine-Saint-Denis, vous avez été touché, mais vous en parlez avec des collègues, forcément.
Oui, alors, en Seine-Saint-Denis, vous comprenez bien, à part ma ville qui a 80% d'espace vert et que je gère assez bien, il n'y a pas de problématique. C'est plutôt sur des projets qu'on veut faire. Lafarge, quand vous voyez les images, c'est catastrophique. ils ont tout cassé, ils sont partis. Oui. On ne peut pas continuer comme ça. Ces gens-là, on doit les identifier et les sanctionner. J'attends encore les sanctions. Ça sera toujours le même problème. Si des fois, on ne sanctionne pas, on n'arrêtera pas l'hémorragie. C'est clair, net et précis.
Jean Messia, il y a une forme de mansuétude, de clémence vis-à-vis, là c'est partagé sur le plateau, mais pourquoi ? Pourquoi eux, au nom de causes plus nobles qu'ils défendraient ou que eux prétendent défendre, il faudrait laisser passer plus facilement ?
Mais vous savez, ça fait très longtemps que ce qui définit la noblesse d'une cause n'est pas un argument intrinsèque et objectif, mais c'est plutôt le tribunal politico-médiatique qui décide de sélectionner les causes en fonction de leur acceptabilité idéologique. Là, on est effectivement dans des actions estampillées écologiques. Voilà, l'écologie fait partie de l'idéologie gaucho-progressiste qui nous dirige depuis une quarantaine d'années. Donc, quels que soient les excès, il y a effectivement une forme de, peut-être pas de complaisance, mais en tout cas, voilà, on met le voile sur la réalité. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a affaire là à un véritable totalitarisme. Totalitarisme, je dirais, presque religieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour ces gens, ils n'en ont cure d'une humanité souffrante. Ils raisonnent sur la planète comme une espèce d'abstraction au nom de laquelle, finalement, toutes les dérives et tous les crimes seraient presque possibles. Les individus, pour eux, ne sont que des empreintes carbone. Rien d'autre. Oui. Donc c'est exactement les ressorts oui. d'un totalitarisme comme il en a pu en exister au XXe siècle, mais évidemment adapté de manière soft, etc. Donc voilà, moi je pense que c'est... Je reviens sur la sanction. Je pense que comme il y a une mansuétude vis-à-vis de ces groupes, il n'y a pas de sanction derrière. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de conférence de presse longue comme celle que Darmanin a par exemple consacrée à une prétendue ultra-droite qui nie Libération. Imaginez un instant que des groupuscules, parce qu'ils veulent protéger la France, agressent par exemple des foyers de migrants, coupent l'électricité à des foyers de migrants sans être violents, mais juste des actions qui viseraient à contredire ou à contester la politique migratoire au nom non pas de la fin du monde, mais de la fin de la France. Qu'est-ce qu'on en penserait ? Là, vous pouvez être sûr que Libération titrerait pendant 3 mois sur cette question. Darmanin et les ministres enchaîneraient les prises de parole. D'accord. Là, rien.
François Pétorin, qui est toujours avec nous. Il y a 2 poids, 2 mesures en la matière dans le traitement de ces actes de vandalisme, de sabotage criminel, hein, parce que parfois, il y a des employés qui se trouvent sur les sites qui sont pris pour cible.
Oui, effectivement. Ben, nous, on l'a bien vu pas très loin de chez nous, à Mauzé-sur-le-Mignon, où en septembre 2021, il y a eu des agressions sur le site, sur les engins de chantier, les ouvriers de chantier. Ils ont été relativement abattus par tout ce qui s'est passé. Même les ouvriers ont eu beaucoup de mal. Et aujourd'hui, effectivement, nous, aujourd'hui, on n'a pas de retour de la justice, de condamnation quelle qu'il soit. Et j'entends vos invités aussi qui parlent des élus. Et aujourd'hui, moi, je ne comprends pas pourquoi des élus pour qui on a voté et qui votent des lois, aujourd'hui, encouragent la désobéissance civile et ses dégradations. Et ça aussi, c'est un effet de masse qu'on a du mal à comprendre, mais par contre, la justice, effectivement, pour nous, n'avance pas assez vite dans ses condamnations.
Merci pour avoir soulevé ce dernier point. Il y a une forme de complicité de certains élus, comme il le dit.
Oui, il y a une forme de complicité.
On parlait d'Yannick Jadot, c'est peut-être pas le seul.
Mais je voudrais quand même dire une chose. Quand on voit cette radicalisation, moi, j'invite quand même tous ces gens à regarder d'un peu plus près tout ce qui a été fait en réalité. Parce qu'on a le sentiment que rien n'est fait, qu'on est en train de laisser mourir la planète. Je rappelais 2 ou 3 choses. Le principe de précaution, c'est pas rien, qui a été inscrit dans la Constitution, dans la charte de la Constitution. L'environnement, la charte de l'environnement, les COP, on en pensera ce qu'on en voudra, qui va avancer, le climat, la réunion climat à Paris, etc. Mais avez-vous simplement lu la loi du 24 août 2021 sur le climat ? Et là, je m'adresse au maire qui sait très bien l'impact de cette loi dans les domaines qui relèvent des maires. On parle souvent des immeubles qui sont des passoires, etc. Mais l'urbanisme a été complètement modifié. Les transports, les cantines...
Il y a des lois qui sont très drastiques.
Il y a des lois très restrictives qui vont devoir... où les maires devront s'adapter très rapidement avec des délais très contraints. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien.
Le parc immobilier va changer complètement de visage.
Façon, maintenant, il y a un cahier des charges. Hein. C'est-à-dire que tous les contrats qu'on passe, ils doivent respecter le cahier des charges. Donc il y a des charges, il y a plein de choses environnementales qu'on met, d'accord. Mais quand on parle des élus, attention, ne nous trompons pas. Ce sont les élus, nous les élus locaux, je peux vous dire qu'on n'est pas là pour les protéger, on est là pour protéger la population. Donc maintenant les élus, mais il y a des lois. Pourquoi les charger les sénateurs ou les députés ? Il y a des lois, appliquons-les. Ils ont défié la loi.
Ils sont hors la loi.
Et surtout, c'est complètement débile. Parce que qu'est-ce qui reste de ces actions?
Mais rien, rien.
De quoi se souvient-on après ces actions, à part la actions elles-mêmes?
On se rappelle juste de la violence.
Le fond, on ne fait pas avancer la cause.
Alors, la problématique, c'est vrai
que. Allez, on va s'arrêter là-dessus après. Bah, finissez votre phrase quand même.
Non, je voulais vous dire, les élus locaux font le taf. Mais vous évoquiez les COP. Mais quelle catastrophe, les COP. Il faut qu'on arrête les COP. Chaque COP dit qu'on n'a pas fait la COP d'avant. Non, mais je suis sérieux. Restons à la COP 1. Et quand on aura fini la COP 1, on n'arrivera pas à la COP 27.
Surtout quand certains pays se dissocient de la COP.
C'est de l'enfumage. Ouais. C'est encore de l'enfumage. Parce que ça peut énerver tout le monde. Quand on se voit COP, où tout le monde se voit, se fait des bisous, tout ça, et qu'à la fin, on se rend compte. Non, mais c'est la réalité. La COP, ça énerve.
C'est Copacabana.
Ouais, c'est COP énervant.
La punchline est faite, on peut passer au thème d'après. Merci beaucoup pour cette petite incise. Et merci François Pétorin d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct en notre compagnie cet après-midi. On va parler. C'est un peu la suite logique de la crise énergétique avec deux autres réacteurs nucléaires qui ne pourront pas redémarrer avant la fin de cet hiver. Il y en a six autres qui devront être arrêtés en 2023. Ça n'augure rien de bon pour notre parc nucléaire. Regardez, l'état des lieux est signé Augustin Donadieu.
Le constat est clair. Jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire de son histoire. Le parc nucléaire français tourne actuellement aux deux tiers de sa capacité, bien moins que lors d'un hiver habituel. Depuis la rentrée, EDF bataille pour redémarrer rapidement ses centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, seuls 40 réacteurs sur 56 sont en fonctionnement. L'objectif initial était pourtant tenable, relancer 26 réacteurs sur les 56. Mais aujourd'hui, seuls 10 d'entre eux ont été reconnectés. La cause de ce retard, des travaux de maintenance qui prennent plus de temps que prévu. Mais surtout, de minuscules fissures découvertes sur certains tuyaux de secours qui obligent EDF à appliquer le principe de précaution. Pour remédier à ce phénomène inexpliqué, 500 techniciens de haut niveau sont mobilisés chaque jour sur chaque chantier. Ils s'ajoutent aux 1500 spécialistes de la maintenance électrique déjà à pied d'œuvre. En plus de menacer la bonne alimentation électrique de l'Hexagone, ces travaux ont déjà coûté 32 milliards d'euros à EDF cette année. Une facture qui a plombé l'économie française de 0,4 points de produit intérieur brut, selon l'INSEE.
Alors, à l'origine de ces situations, il y a toujours une explication politique. Écoutez le constat dressé par Camille Pascal, il est écrivain et haut fonctionnaire.
Si on devait faire le bilan, et au fond il se fait tout seul, mais du mandat de François Hollande, je crois qu'il a été mis au fin à deux grands consensus nationaux, nés du Conseil national de la Résistance et de la politique gaulliste à partir de 58, c'est la politique familiale et le nucléaire. Voilà. Qui étaient deux bases solides de la société française. Bon, bah, écoutez, vous savez, on est une société qui aime à renverser les piliers. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de piliers, tout s'effondre.
Deux piliers, je vous ai vu vivement réagir à l'évocation du nom pilier. Politique familiale et nucléaire.
C'est une analyse extrêmement brillante. Oui, la politique familiale, vous savez, moi, quand j'étais au lycée, on m'a appris que la famille est la cellule de base de la société. Effectivement, c'est le leitmotiv qu'ont appris des générations de lycéens et de Français. Bon, la famille aujourd'hui, elle n'est plus aidée. Il n'y a plus de politique familiale, plus de politique nataliste. Tout ça a été passé par pertes et profits. Et le nucléaire, effectivement, même chose. Alors, ça a été un peu plus tardif que la politique familiale, mais encore que, c'est quand même François Hollande le premier à avoir donné les premières estocades significatives à la politique familiale et aussi à la remise en cause du nucléaire, tant et si bien que la France, qui était quasiment une puissance énergétique souveraine du point de vue de l'électricité, parce qu'on n'est évidemment pas souverain du point de vue des hydrocarbures qu'on importe massivement, mais on arrivait à produire jusqu'à présent à un coût raisonnable eh bien notre propre électricité. Je ne sais pas ce qui a pris le gouvernement d'aller s'enfermer, se corseter dans un foutu marché européen dont on voit aujourd'hui qu'il nous fait payer l'électricité bien plus cher que les pays qui n'en font pas partie. Et s'ajoute donc à ce phénomène macroéconomique, un phénomène mésoéconomique, c'est-à-dire un phénomène sectoriel, puisqu'aujourd'hui, vous savez que les centrales nucléaires, ce qui gère un peu leur fonctionnement ou leur non-fonctionnement, c'est l'Agence de sécurité nucléaire. C'est elle qui dicte en fait la politique nucléaire et qui va traiter depuis Fukushima, on est rentré dans une espèce de peur apocalyptique du nucléaire, et qui va vous traiter la moindre fissure qui provoque un risque probabiliste d'explosion ou d'incident, et elle va le traiter exactement comme une menace immédiate, imminente et massive. Et donc effectivement, si à chaque fois on fait ça, on ferme une centrale ou on ferme un réacteur, ça ne peut plus fonctionner.
C'est le fameux principe de précaution que vous évoquiez tout à l'heure. Sauf que voilà, on en arrive parfois aussi à des aberrations. Alors là, dans le reportage, on nous dit en 2023, tout sera opérationnel parce qu'il faut le temps de réhabiliter tous ces réacteurs. Mais est-ce qu'on est vraiment à la fin de nos peines? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut espérer raisonnablement qu'à compter de 2024, tout va rentrer dans l'ordre, Georges Fenech? Ou il y aura encore d'autres réacteurs qui seront qui devront subir de la maintenance?
Oui, je ne sais pas, je ne suis pas un technicien, mais je vais vous dire, moi j'ai le sentiment qu'on ne sait pas tout sur cette affaire nucléaire français. J'attends beaucoup des résultats de la commission d'enquête parlementaire qui a actuellement lieu à l'Assemblée nationale. Vous avez vu toutes ces auditions qui sont quand même, qui révèlent des choses qu'on ne connaissait pas. Sur l'abandon, par exemple, du processus Astrid, qui permettait de régler la question des déchets nucléaires que les Américains sont en train de mettre au point grâce à notre technologie. Pourquoi avoir abandonné cela ? Souvenez-vous aussi de la revendication avec une vanité incroyable de Mme Dominique Voynet qui disait « J'ai réussi au niveau européen à ne pas respecter la lettre de mission de mon gouvernement, vous vous rendez compte ?» Écoutez l'audition d'Henri Proglio, ancien patron de l'EDF, qui explique comment l'Allemagne, finalement, a lutté pour justement qu'on n'ait plus cette indépendance énergétique nucléaire qui nous a fait fermer Fessenheim, entre autres. Donc, on a été des grands naïfs dans cette histoire.
Les élites françaises.
Nos élites, je parle des politiques. Hein,
on a suivi.
Depuis François Hollande, parce que jusqu'à Sarkozy, je crois que tout le monde reconnaît qu'on avait maintenu notre énergie.
Vous n'allez pas dire le contraire. Vous avez été LR quand
même. Je crois que tout le monde le reconnaît.
Okay.
Et Nicolas Sarkozy, on a suffisamment passé
un peu de mesure dans
ici des déclarations d'anciens présidents pour en avoir une certitude. Et malheureusement, c'est vrai.
Entre donc Sarkozy et Hollande, il n'y a pas photo. On n'a pas besoin d'être LR pour dire ça. Hein.
Non, mais enfin bon, il ne peut pas non plus prendre le contre-pied. On paie la politique de 30-40 ans de renoncement à tous les étages.
Oui, mais l'accélération était
réelle. Donc vous le datez à 2012.
Rappelons-nous l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. Je veux réduire l'énergie nucléaire. Rappelons-nous au propos d'Elisabeth Borne, qu'elle a dû sûrement oublier il y a 2 ans. Il y a ceux qui disent qu'on ferme les centrales et ceux qui le font, on l'a fait. Donc, oui. Excusez-moi, il faudrait peut-être agir à un moment, on s'est trompé. Mais je n'entends jamais ça.
Non.
Les Français ont envie, on se trompe tous. Mais eux, ils ne se trompent jamais.
Oui, mais là, c'est tellement gros.
Mais oui, mais ils ne le diront jamais. Mais le gros devient un peu énervant. Là, de toute façon, là, ils viennent d'annoncer qu'il y aura 6 réacteurs fermés en 2023. On importe de l'électricité de l'extérieur. Et on nous entend, les ministres, qu'on n'a jamais été autosuffisants. C'est faux, ils mentent tout le temps. Ils se sont trompés.
Oui.
Je veux dire, c'est clair. Il est,
pour des raisons idéologiques, pour des raisons idéologiques aussi.
Mais seulement par la pression des Verts au début,
où
Macron voulait parler avec tout le monde, comme vous le disiez tout à l'heure, et on en est là aujourd'hui. Du coup, c'est pas l'Ukraine qui arrête de faire croire, parce que les centrales sont fermées, et c'est pas à cause de l'Ukraine qu'on a fermé les centrales. C'est une décision politique, peut-être partie de François Hollande, mais complètement appuyée et assumée par ceux qui sont en place aujourd'hui.
Allez,
et qui nous le disent. On a envie d'entendre ça. On s'est trompé.
Bah, je sais pas, en admettant qu'il fasse un mea culpa, quoi ça nous avancerait?
C'est impossible, c'est jamais arrivé. Ça.
D'accord. Mais même s'il le faisait, en quoi ça relancerait la politique énergétique?
Au moins, écoutez-moi, on en est au point, si vous vous rendez compte.
Mais puisque tout le monde en a conscience, en fait.
Il n'y a pas de soudeurs en France. On sait très bien qu'il fallait des soudeurs.
Il y en a qu'un qui l'a à peu près admis, sans vouloir être évidemment en contradiction avec le président, c'est Bruno Le Maire. Il a quand même admis à demi-mot qu'effectivement...
Oui, parce que dans quelques années, peut-être qu'il veut un autre avenir. Donc il dit, on va commencer à se séparer un tout petit peu, d'accord?
Allez, j'aimerais juste, il nous reste une minute et demie, qu'on parle de la RTE qui est plus optimiste, qui dit que le risque est plutôt moyen pour les jours à venir. Jusqu'ici, il était qualifié d'élevé. Alors, qui faut-il créditer? Vous parlez d'Elisabeth Borne. On va l'écouter, la Première ministre. On ne l'a pas pour l'instant, mais on essaiera de l'écouter un petit peu plus tard. Elle nous dit en substance, parce que je me souviens encore de ce qu'elle racontait en préparant l'émission, les Français ont joué le jeu, 10% de réduction d'énergie. Mais finalement, ce sont les seuls responsables aujourd'hui. C'est-à-dire que là où le gouvernement n'assume pas ses responsabilités, il faut toujours compter
comme toujours
sur le peuple.
On culpabilise, Covid, on culpabilise les gens. Là, on culpabilise même les mairies, on a coupé les illuminations, on a tout coupé, mais c'est leur faute. Tout simplement, c'est de leur faute.
Mais c'est un argument économique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Français payent leur électricité 4 fois plus cher qu'en Espagne ou au Portugal, c'est une règle économique très simple. Quand le prix augmente, la demande baisse. Il ne faut pas avoir un doctorat d'économie pour le comprendre. Hein.
Allez, on va continuer d'en parler à coup sûr dans les prochains jours. On va marquer une courte pause et puis on reviendra pour parler de l'enquête à Vaux-en-Velin qui progresse assez difficilement, mais surtout qui met l'accent sur d'autres problèmes qui ne sont pas propres à la région lyonnaise, que vous connaissez bien, bien évidemment.
Et je connais bien Vaux-en-Velin.
Vaux-en-Velin en particulier. On pourra en parler dans un instant. On parlera des risques d'incendie dans de nombreuses cages d'escalier qui sont squattées par des individus peu recommandables. A tout à l'heure. De retour pour la suite de 90 minutes info, on va quand même retrouver Mickaël Dorian pour ne rien rater de l'actualité aujourd'hui à 16h. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et on ouvre ce journal avec ces images qu'on n'aurait pas aimé voir évidemment de ces joueurs argentins de retour au pays après avoir atterri en Argentine cette nuit. Place aux retrouvailles avec leur public. Vous voyez le bus de l'équipe au milieu de cette foule. Alors voilà, vous voyez la foule de supporters venus acclamer les héros de tout un pays et le bus. À noter que ce mardi a été décrété comme jour férié par le gouvernement argentin. Emmanuel Macron félicite le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde de football. Nous terminons une Coupe du Monde qui est la première dans le monde arabe et qui s'est tenue au Qatar. Et je les en félicite, a-t-il lancé depuis la Jordanie, le chef de l'État qui avait été vivement critiqué par l'opposition pour s'être rendu à deux reprises au Qatar afin de soutenir l'équipe de France et pour ses compliments quant à l'organisation de l'événement. L'inquiétude, si vous avez prévu de prendre le train pour Noël, la SNCF prévoit 2 trains sur 3 en moyenne ce week-end en raison de la grève des contrôleurs. Si la CGT et Sudrail n'appellent pas officiellement à la grève, ils maintiennent les préavis. Les syndicats laissent le choix à chaque contrôleur de se joindre ou non au mouvement. La triple épidémie de grippe, bronchiolite et Covid-19 inquiète. À l'approche du réveillon de Noël, Elisabeth Borne s'est rendue à l'Agence régionale de santé en compagnie du ministre de la Santé, François Braun. La première ministre a souhaité faire le point avec les équipes administratives et médicales. Elle appelle notamment à respecter les gestes barrières dans les espaces clos. On l'écoute.
Aider ces personnels soignants, on a tous une part, aussi un rôle à jouer. Et c'est notamment le respect des gestes barrières, le port du masque dès qu'on est dans un espace clos où on est nombreux, comme ici. Donc je vais bientôt remettre mon masque, mais donc il faut absolument respecter des gestes barrières. Et puis un appel aussi à la vaccination. On a eu du retard dans la vaccination contre une épidémie de grippe qui pourtant est très forte et qui s'annonce aussi très dure. Donc c'est très important de se faire vacciner. C'est aussi très important de se faire vacciner contre le Covid, de faire son rappel.
Michel-Édouard Leclerc plaide pour le retour des autotests dans les grandes surfaces face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Le président des centres Leclerc lance un appel. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews.
Nous avons eu le droit, nous, grands distributeurs, Leclerc, Carrefour, Auchan, d'en vendre pendant la période dure du Covid. On nous en a retiré le droit pour les mettre en vente exclusive en pharmacie où ils étaient plus chers. Et aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de les vendre. Et en plus, si je ne me trompe pas, à la fin de décembre, ça change de taux de TVA et ça augmente de 5%. Donc mon appel, alors je ne sais pas si c'est à Bruno Le Maire ou au ministre de la Santé, mon appel les c'est deux. Déjà qu'on n'augmente pas le taux de TVA sur les autotests à la fin de l'année. Et s'il vous plaît, si le Covid repart, je pense que les collaborateurs de la distribution, y compris nos diplômés de pharmacie dans nos parapharmacies, sont tout à fait capables de vendre des autotests sans casser la baraque. Ne nous enfermez pas dans des règles corporatistes. Nous pouvons faire le job et à moins cher.
Nouvelle grève des infirmières au Royaume-Uni. Les infirmières poursuivent leur mouvement pour tenter d'obtenir une augmentation de salaire. Un mouvement qui menace de durer face à un gouvernement inflexible. Écoutez ces grévistes interrogés tout à l'heure.
Oui, nous faisons de notre mieux pour assurer la sécurité de nos patients. Mais nous avons besoin de plus de personnel pour nous aider. Nous avons besoin de plus de personnel sur le terrain pour s'occuper des patients jour après jour, la nuit, le jour, le week-end.
La sécurité des patients est menacée chaque jour en raison du manque de personnel, non seulement dans le secteur des soins infirmiers, mais aussi dans les services d'ambulance, chez les professionnels paramédicaux, chez nos médecins. Le gouvernement doit se pencher sur la façon dont il forme et finance notre personnel.
Et puis les violences continuent. Au Pérou, depuis plusieurs jours, des partisans du président destitué et les forces de l'ordre s'affrontent. Selon un dernier bilan, en marge des manifestations, au moins 21 personnes sont décédées. Écoutez ces manifestants interrogés.
Malheureusement, cette dame nous a pris par surprise. Elle avait initialement dit que si Pedro Castillo partait, elle partirait aussi. Mais ça n'a pas été le cas.
Peut-être qu'elle devrait reconsidérer sa décision et demander de nouvelles élections. Va-t-il y avoir des élections anticipées ou non? En attendant, toutes les organisations sociales du Pérou vont continuer à descendre dans la rue.
Le coup d'État a été mené par la droite. Et le coup d'État se manifeste par le fait que des gens commencent à être tués sans aucune raison. Il déclenche une division urbaine, disons, entre les Blancs ou les cols blancs et les Pecnos.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans 90 minutes info en compagnie de Nelly Denac. Et de
merci beaucoup, merci Mickaël. Toujours en compagnie de Georges Fenech, Jean Messia et Ludovic Thoreau cet après-midi. J'aimerais qu'on revienne à cet effroyable incendie de Vaux-en-Velin qui a fait 10 morts. Sachant que le parquet de Lyon a décidé d'ouvrir une information judiciaire des chefs de dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Et les langues se délient, les habitants commencent à parler, y compris aux journalistes, pour dénoncer la vétusté du bâtiment, selon eux, ainsi que la présence continue de dealers dans le hall de cet immeuble. Écoutez aussi l'un des témoignages, on l'a beaucoup entendu ces derniers jours, Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, qui va un peu dans la même direction.
Dans ces immeubles, en revanche, dans ces copropriétés, il y a déjà eu des démantèlements de filières il y a quelques mois de cela. Oui. Et puis, les trafiquants sont revenus sur ce secteur. Et donc, la demande était relancée de recommencer le travail. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que la police nationale puisse être installée de façon permanente. Et puis, il faut retravailler la configuration urbaine du quartier.
Georges Fenech, faut-il revoir la politique urbaine? C'est-à-dire que c'est la clé, on parlera des autres facteurs dans cette situation, mais ce qu'elle dit là, c'est qu'il faut peut-être repenser tout notre parc urbain et tout le parc des quartiers. On se souvient de Jean-Louis Borloo avec son plan banlieue qui a été retoqué. Il y avait des choses à aller chercher là, de ce côté-là?
Vous savez, la politique de la ville, comme on l'appelle, elle a existé depuis une quarantaine d'années. Si je devais vous rappeler tous les plans qui ont été mis en œuvre sous tous les gouvernements, ces milliards et milliards qui ont été déversés dans ces quartiers à travers des dispositifs, vous avez parlé de Borloo, l'ANRU, qui était effectivement la paternité de Jean-Louis Borloo, qui était d'ailleurs une très bonne chose. Et malgré tout, on n'a pas fait reculer l'insécurité. Et la délinquance, c'est malheureusement le constat que l'on peut faire, voyez-vous. C'est ça qui est désespérant. C'est de voir que presque c'est pris comme un encouragement à continuer dans cette forme de vie hors la loi, finalement. C'est plus vous en faites et plus vous bénéficierez de moyens. Ce n'est pas caricatural, ce que je vous dis. Je me souviens, il y a encore peu de temps, à Chanteloup-les-Vignes, on avait construit un magnifique salle de spectacle et tout pour les jeunes. Un an après, ils l'ont incendié, voyez-vous. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces politiques de la ville. Bien entendu qu'il faut continuer à mettre au cœur de ces banlieues de la ville, c'est-à-dire des services publics, des transports. Mais Vaux-en-Velin, ça a été fait. Il y a le métro, effectivement, qui arrive à Vaux-en-Velin. Il y a eu des rénovations qui ont été faites. La métropole a mis, il y a quelques années, d'accord, 100 millions d'euros.
Donc, peu importe l'argent insufflé.
Je veux dire, c'est important, de rendre ces banlieues au même niveau que les centres-villes, avec les mêmes services et tout, mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Et il y a un manque quelque part.
Quoi qu'il arrive, Jean Messia, on saccagera l'outil de travail, quoi qu'il arrive.
Laissez le soin de dire les choses jusqu'au bout et en vérité.
J'aurais pu les dire.
Voilà, je pense que, encore une fois, le leitmotiv sur lequel on a vécu depuis 40 ans, c'est l'immigration est une richesse pour la France, moyennant quoi on s'étonne de ne pas voir Vaux-en-Velin dans le palmarès des villes les plus riches de France. Mais cela étant, l'État a quand même mis beaucoup d'argent, pas seulement d'ailleurs à Vaux-en-Velin, à travers effectivement la politique de la ville, des centaines de milliards d'euros, ou des dizaines de milliards d'euros en tout cas, depuis une trentaine d'années. Donc on a effectivement rénové, on a connecté la ville à travers le réseau de transport en commun. Au reste, ça n'a rien d'une cité enclavée, si vous voulez. Mais le problème, in fine, ce n'est pas un problème de contenant, ce n'est pas un problème d'immeuble, ce n'est pas un problème de voirie, c'est un problème de contenu. Ce sont les populations qui y habitent qui font ça. Et la question que moi je veux poser, c'est là, effectivement, selon toute vraisemblance et en toute prudence, il s'avère que à peu près, de manière à peu près certaine, que ce sont effectivement, c'est un incendie volontaire, lié sans doute à un trafic de drogue dans l'immeuble avec des dealers, etc. Je ne comprends pas pourquoi la population, après des morts, pourquoi la population va entamer des ratonnades, des actions de vengeance contre les dealers. On sait que à chaque fois qu'un membre de ces quartiers se retourne un ongle parce qu'il est poursuivi par la police, vous avez le quartier derrière qui s'embrase pendant plusieurs jours avec des incendies partout. Qu'attendent les habitants de ces quartiers pour faire la même chose et se venger des dealers qui leur pourrissent la vie?
Donc il y a une forme d'omerta.
Et ça serait d'ailleurs l'occasion qu'ils se détachent et qu'ils se désolidarisent de ces trafics.
Ludovic Toro, je vais vous faire réagir, mais on va voir dans un reportage tourné par une de nos équipes que c'est loin d'être un cas isolé, ce qui se passe en banlieue lyonnaise. C'est le cas aussi en Ile-de-France. Écoutez ces témoignages recueillis par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. C'est assez édifiant. Image à l'appui.
À l'entrée de cette cité d'Ivry-sur-Seine, des jeunes squattent le hall de cet immeuble, transformé en point de deal. Sur les murs, des tags dessinés par des flammes et des interrupteurs calcinés. Une fréquentation et un état de délabrement qui font craindre le pire aux habitants.
Tout le monde a peur des incendies ici, parce que ça fait des dégâts. Il n'y a pas d'extincteur dans les couloirs, il n'y a rien.
Dans cet autre bloc d'habitation, le récent drame de Vaux-en-Velin est dans tous les esprits. Nicole a 70 ans, elle habite ici depuis 40 ans. Toute la journée, elle est confrontée aux jeunes qui ont pris possession des parties communes pour vendre et consommer de la drogue.
Moi j'en peux plus, hein. J'en peux plus. Vous voyez, j'essaye de barricader ma porte pour mettre un rideau, pour plus sentir cette fumée. J'ai mis des trucs en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez. Vous regarderez, ils ont marqué MAMS ou je sais pas quoi. Ils peuvent très bien mettre le feu, hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver dans une des cités, hein.
Face à la situation, une mère de famille s'inquiète de ne pouvoir évacuer en cas d'incendie.
La seule chose que je puisse faire, c'est fermer ma porte, mettre des chiffons mouillés au niveau de la porte, l'encadrer et attendre que quelqu'un vienne, si les pompiers viennent ou pas.
Certains habitants de cette cité voudraient déménager, mais pour la majorité, impossible, faute de moyens financiers.
On voit bien les stigmates de certains départs de feu. Là, c'est en image, alors c'est pas Vaux-en-Velin, mais on voit que c'est quelque chose de... Voilà, c'est pratiquement endémique à ces cages d'escalier.
Quatre points, assez rapides. Vous avez raison. Politique de la ville. Je donne un exemple. Ma ville n'est pas dans la politique de la ville. Il me donne 70 euros par habitant pour gérer ma ville. La ville d'à côté a 1100 euros par habitant. Donc ma ville se pauvrise parce que tout simplement, on n'a pas mis le feu et tout ça. Aujourd'hui, c'est la prime à l'échec. Pas la prime à la réussite. Et moi, je suis dans une situation catastrophique budgétaire et les gens ne comprennent pas pourquoi la ville d'à côté par habitant est à 1100 euros et je suis à 70 euros. Voilà, première chose. Deuxième chose, vous avez raison, c'est un problème de délinquance. Vous changez tout et la délinquance, pourquoi? Parce qu'il y a exactement 300 tonnes de cannabis par an en France. Tant que vous n'aurez pas ça, ils seront encore là en train de vendre. 2,7 milliards de notre PIB est inscrit, d'accord? Et deuxième chose, il y a la loi. Occupation de partie commune, 2 mois de prison, 3150 euros. Et où la loi et l'application de la loi? Arrêtez de faire des lois et des choses que vous n'appliquez pas.
Vous avez oublié une cause quand même, c'est la politique migratoire, excusez-moi. Moi, c'est ça qui alimente finalement le...
La délinquance pour moi. Attendez, c'est la délinquance. La délinquance sera toujours là tant qu'on ne l'enlèvera pas. Et tout, on va construire, reconstruire, la délinquance sera là. Il y aura des cannabis brûlés. Hein,
et la quatrième chose, vous avez parlé de quatre choses.
Non, bah, j'ai dit politique de la ville, et j'ai fini. Non, par la loi. Il y a 2 mois de prison. Qui a été condamné, même à l'amende forfaitaire de 200 euros? Sérieusement, personne.
Genre, quand la police y va. On pourrait parler des heures de la non-application de la loi. Ça touche à tout.
Oui, mais il faut que ça s'arrête.
Non, mais ça. Hein. C'est un mal qui ronge aujourd'hui notre pays.
C'est-à-dire que,
on y viendra avec un autre thème que je vous soumettrai tout à l'heure, tant que les peines ne sont pas appliquées,
la justice tourne à vide.
Mais oui,
il faut le savoir. C'est-à-dire que lorsque l'affaire arrive miraculeusement au parquet, et ensuite miraculeusement encore plus devant un tribunal,
après des délais,
et que miraculeusement il y a quand même une peine qui est prononcée, et que miraculeusement on décide de l'exécuter, il n'y a pas de place en prison. Et donc, on n'exécute pas.
Si vous êtes de droite.
Et aujourd'hui, vous avez entre 80 000 et 100 000 peines de prison fermes qui sont en attente d'exécution parce qu'on se refuse à construire les places nécessaires. La justice, elle tourne. Il n'y a pas, contrairement à ce que prétend le garde des Sceaux, il n'y a pas de réponse pénale à hauteur de 93%, je crois. Il inclut là-dedans les classements sans suite, les rappels à la loi, etc.
Donc il faut vraiment en vouloir aujourd'hui pour aller en prison, quoi.
Mais ben oui, parce ça tient du parcours miraculeux d'arriver en prison.
Mais c'est terrible à dire.
Pour vraiment faire, hein, pour avoir tué père et mère. Hein, pour
si,
vraiment...
si je puis me permettre de remonter en avant, mais en amont, mais vous avez parfaitement raison sur le fonctionnement de la justice. Mais il y a aussi, pardonnez-moi, qu'est-ce qui provoque cet enlisement de la justice, sinon une cécité idéologique ? Là, par exemple, dans l'affaire de Lyon, qui va oser parler, en tout cas qui au gouvernement, quelle conférence de presse va venir nous dire le lien entre certaines immigrations et ce qui se passe et cet incendie ? Alors, on va peut-être vous dire que c'est peut-être l'extrême droite qui vend des goodies nazis dans le hall qui ont provoqué l'incendie. Voilà comment on traite aujourd'hui ces informations-là. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de dire le réel. C'est, vous savez, le grand...
Vous savez, je vais vous dire, le ministère de l'Intérieur, les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est 24% de détenus étrangers dans nos prisons.
Étrangers.
Mais c'est même plus le problème. C'est pas le problème, pardon, de l'immigration. Parce que ces jeunes, ils sont français de la troisième et quatrième. C'est un problème d'intégration de ceux qui sont nés français, de pères français.
Je crois qu'il y a plusieurs problèmes, en fait.
Oui, mais puis
les problèmes sont...
Ce qui veut dire, c'est que...
Et vous avez un courant idéologique, il faut le dire, personne ne veut le dire.
On va parler...
Alors je me tais.
Non, mais on va parler, c'est juste qu'il faut qu'on avance parce qu'on n'a pas 3 heures non plus. J'adorerais avoir 3 heures en votre compagnie, je vous le dis. Bon. Mais on a fait venir Amaury Bucaud pour parler aussi du bilan, toujours sur le plan de la sécurité, le bilan des débordements occasionnés par les matchs de la Coupe du Monde. On a parlé pour dimanche de 27 interpellations, hors Amaury Bucaud, on ne présente plus. Il y a d'autres chiffres que vous avez obtenus.
Voilà,
ils sont plus parlants, c'est pas le vrai bilan en fait.
Tout à fait, Nelly. Bah, disons que c'est le bilan consolidé, on va dire. Donc, une trentaine de villes en fait ont connu des violences urbaines. Alors, quand je parle de violences urbaines, je parle de bien sûr tirs de mortier, souvent à l'encontre des policiers, mais aussi de bâtiments. Je parle de jets de projectiles. Je parle de dégradation de mobilier urbain comme des abribus. Je parle d'incendies de voitures et de poubelles. Et je parle aussi de pillages de magasins. Et plus rarement, il y en a eu quelques-unes, mais d'agressions de supporters, notamment argentins. Alors, toutes ces violences urbaines, elles ont commencé à 19h après le match. Donc, je vous parlais d'une trentaine de villes. Je ne vais pas vous les faire toutes. Je vais vous en faire 5 exemples, peut-être les plus impressionnants ou du moins les plus significatifs. Vous avez à Lyon, où il y a eu de très nombreuses violences sur la place Bellecour, hein, qui est un peu la place emblématique de Lyon. Il y a eu de nombreux affrontements entre les policiers et de nombreux individus qui s'étaient réunis. Les policiers ont été attaqués, même harcelés. Il y a 12 policiers qui ont été blessés. Vous avez aussi le Monoprix de la place Bécour qui a été à plusieurs reprises pillé. Je vais vous emmener maintenant à Grenoble où vous aviez 200 personnes qui sont arrivées dans Grenoble, réparties en petits groupes et qui ont semé la zizanie. Il y a 90 poubelles et conteneurs qui ont été incendiés dans Grenoble. Les pompiers, bien sûr, sont arrivés sur place pour éteindre les incendies, se sont fait eux-mêmes attaquer, les policiers aussi, bien sûr. Attrape, c'est régulier, mais le commissariat, c'est juste un exemple comme ça, a été visé par 5 tirs de mortier. Vous avez aussi Limoges, où les policiers ont été attaqués. Une boutique d'habits pour hommes a été pillée. Et puis à Metz, par exemple, un dernier petit exemple, un couple de supporters argentins qui s'est fait agresser. La femme a été propulsée par terre, blessée, emmenée à l'hôpital, blessée la cléville.
Ah, finalement, ça s'est pas si mal passé.
On n'en parle pas.
Trentaine de
minutes.
Ça s'est pas si mal passé. C'est ce qu'on entend dire.
On n'en parle pas. Le seul chiffre, pour tout bilan, le seul chiffre qu'on a eu, c'était les 227 interpellations.
C'est ça. Ça s'est pas si mal passé.
Mais moi, j'ai une idée.
On n'a pas arrêté ce
sujet. Si vous êtes d'accord, vous allez lister tout ça et vous allez vous dire combien ça coûte. Eh ben, on va l'envoyer au Qatar, la note. Ils ont fait des bénéfices, d'accord? Que M. Macron, qui est très bien avec l'émir du Qatar, qui va l'appeler. Et on va faire la note et ils vont payer parce qu'ils ont fait des bénéfices. Parce que ça cause.
Mais en quoi le Qatar est responsable de ce qui s'est passé chez nous?
Non, mais ce que je veux dire, mais ils ont fait des bénéfices pour cet événement, on est bien d'accord.
Mais en quoi ils sont responsables?
Mais c'est une blague, c'est de l'humour.
Là-bas, il n'y a pas eu un problème.
C'était une provocation.
Il n'y a pas eu un.
Non, mais je vous explique. Ils ont fait. C'est bien la Coupe du Monde qui a provoqué ces dégâts.
Alors justement, combien ça coûte ces dégâts?
Alors ça, je n'ai pas le montant, mais en revanche, il y a trois, on va dire, leçons qu'on peut tirer de cette Coupe du Monde. La première chose, c'est que les tirs de mortier, les feux de poubelle, etc., ce sont des phénomènes qu'on connaît souvent dans les banlieues parisiennes, mais aussi dans le reste de la France. Et que là, de façon un peu inédite, ça s'est produit dans les centres-villes. Et la question, c'est est-ce que ça va perdurer dans les centres-villes? Notamment, on va le voir peut-être au Nouvel An. Est-ce que ça va continuer à se reproduire dans les centres-villes? La deuxième chose, c'est que l'ultra-droite, qui avait été dénoncée, pointée par le gouvernement comme responsable de certains débordements, finalement, a eu un rôle très minime. Là, dans tous les cas, le bilan que je vous ai fait, ce n'est subté nulle part. Et le troisième point, c'est qu'il n'y avait pas eu de condamnation spécifique du gouvernement envers ces violences urbaines, comme si elles étaient rentrées dans le domaine de l'acceptable.
D'accord.
Et pourtant, j'ai lu...
Un dernier commentaire, et il faut qu'on avance.
Oui, oui, c'est ça. Mais je, voilà. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand ils ont fait tout ce cinéma avec l'ultra-droite, Gérald Darmanin était capable de nous dire qu'il s'agissait de suprémacistes blancs, de factieux, etc. Est-ce qu'on a les profils, la majorité des profils, de toutes les exactions que vous avez décrites? Parce que si on arrive à les faire pour certains publics, il faut les faire pour d'autres. Ouais, vous comprenez? Sinon, c'est exactement comme René Magritte, vous savez, trahison de l'image, ceci n'est pas une pipe. C'est exactement la politique du gouvernement. Il voit une réalité, il en décrit une autre.
Merci. Vous parlez du Qatar. Tiens, le Qatar, ce pays hôte qui ne récolte finalement que des lauriers depuis la fin de la compétition. C'est assez incroyable. Après les appels au boycott, après tous les reportages sur les morts des chantiers, des stades, soudainement, on sent une forme de réhabilitation de ce pays et du rôle de l'Émirat dans la tenue quasi parfaite de cette Coupe du Monde. J'aimerais qu'on en parle avec vous, Arnaud Tulipier. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à 90 Football. C'est vrai que les gens, les supporters même français qu'on a pu interroger, ne tarissent pas d'éloges sur ce qui s'est passé. Sécurité au top, accueil, pas d'anicroche, y compris dans les transports. C'est globalement le bilan que vous entendez qui vous est revenu aussi?
Oui, bien sûr, mais on a presque l'impression, mais c'était, je ne vais pas dire que ce n'est pas inattendu, mais on a presque l'impression que ça s'est organisé à Disneyland, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas un papier qui traîne, tout était sécurisé, etc. Ceux qui ne s'attendaient à ce qu'il y ait des hooligans là-bas, ils étaient très mal renseignés, parce que les vraies polémiques qu'il y a eu, c'est sur les droits de l'homme dans ce pays d'habitude, c'est sur les morts sur les chantiers, c'est sur les petits problèmes qui n'ont rien à voir avec le football et qui n'ont rien à voir avec l'organisation d'une compétition. C'était plus une histoire, on va dire, de philosophie, de se dire pourquoi donner dans ce pays-là une Coupe du Monde plutôt que sur le déroulement de la compétition, qui, bien évidemment, j'ai eu quelques collègues qui étaient là-bas, tout était réglé comme du papier à musique, ils étaient dans les bonnes conditions, les hôtels étaient formidables, etc. Donc, c'était aussi une façon... C'est ce qu'on appelle le soft power, et ce n'est pas à vos invités que je vais apprendre cela. Le soft power, c'est quoi? C'est on ne peut pas dominer d'un point de vue militaire, on va essayer de trouver dans la politique, dans le divertissement, dans le sport, dans pas mal de choses, une façon de démontrer son savoir-faire et son importance pour peser. Évidemment, le Qatar avait une grande attente sur cette compétition devant le monde entier, et ils l'ont répondu plus que bien, mais c'est attendu.
Vous restez avec nous, Arnaud Tulipier. C'est incroyable comme cette vitrine, ce vernis a bien fonctionné, y compris, alors là, c'est plus étonnant, Emmanuel Macron qui a dit, je crois, aujourd'hui, qui a salué l'organisation de cette compétition, c'est-à-dire qu'il s'est même fendu d'un commentaire là-dessus.
Mais apparemment, ces gratte-papiers ont oublié de lui remettre une note sur ce qui s'est passé au Parlement européen, avec ces valises de billets qui ont été retrouvées et la commission d'enquête qui est en cours au Parlement européen pour corruption par le Qatar d'élus et de oui, oui, mais enfin, bon, c'est quand même l'attribution de la Coupe du Monde. Ces billets, ils n'ont pas été donnés pour aller acheter des glaces, vous pensez bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le Qatar...
Parce que les pays font du lobbying intense à tous les niveaux et pour toutes sortes de décisions.
Avec 1,5 million d'euros en liquide, retrouvés chez une parlementaire européenne, je crois pas, non.
Mais ça, c'est récent. La Coupe du Monde, elle a été attribuée il y a 12 ans. Donc,
peut-être, mais voilà. Donc en fait, si vous voulez, le rôle de corrupteur du Qatar n'est plus à prouver.
Oui, alors, nous,
on rentre pas dans leurs affaires. Il ne faut surtout pas qu'ils rentrent dans les nôtres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que le Qatar a été gagnant sur toute la ligne. Parce qu'en fait, les deux équipes qui sont finalistes et les deux stars de ces deux équipes sont deux joueurs du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui est propriété du Qatar. Donc ça, c'est sur le volet sportif. Ils gagnent sur ce volet-là. Et puis, en fait, le Qatar nous a administré une leçon, mais magistrale. Le petit Qatar... Petit pays arrive à organiser une compétition de cette ampleur sans qu'il y ait le moindre débordement. La France, qui est sixième puissance économique mondiale, ne sait pas organiser un événement sans qu'il y ait des débordements derrière et des centaines d'arrestations. Oui, c'est quand même la honte, je veux dire.
C'est un peu une leçon d'humilité aussi, mais est-ce que c'est pas un peu facile maintenant de dire tout s'est bien passé et de ne pas les gratter derrière.
C'est psychologique, on vient de finir un peu dans la joie ou la tristesse. Donc on ne peut pas aujourd'hui plomber ce qu'a fait l'équipe de France. Donc ça va s'effacer. Peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, on va revenir sur cette belle démocratie qu'est le Qatar. On a l'air surpris qu'il n'y ait pas eu d'incident. Mais qui aurait pu penser qu'il y avait un incident ? Ce n'est pas une démocratie.
Vous avez, des centaines de milliers de supporters étrangers qui arrivent, vous pouvez effectivement avoir un risque important.
Oui, mais vous savez comment c'est géré là-bas. Je veux dire, ce n'est pas géré tout à fait comme nous, on pourrait organiser les Jeux Olympiques bientôt. Donc je vous dis tout simplement, là c'est la fête encore, on fera le point. Maintenant, les propos du président de la République, voilà, et ça n'engage que lui. Je vous rappelle quand même que rien que son aller-retour en avion, ça a coûté 500 000 euros. Voilà, il y a des choses à un moment qu'il faut dire, d'accord ? Il est bien gentil.
Le président de la République, quand il parle, il engage la France.
Oui,
il n'engage pas que lui.
Oui, mais le problème, il y a longtemps qu'il n'engage plus les Français, je vous le dis. Il n'engage que sa parole.
Rappelons aussi qu'il n'y avait pas d'alcool dans les stades.
Oui.
Ça joue quand même. Hein,
des supporters imbibés peuvent aussi...
En dehors, voilà. Mais enfin, dans les stades, c'était interdit.
Mais on ne peut pas...
Ça limite un peu...
Il faut bien comprendre la nature de l'événement géopolitique. C'est-à-dire que le Qatar s'adresse... Ah, c'est un succès pour le Qatar sur le plan géopolitique parce qu'il s'adressait avant tout, je dirais, au monde musulman. C'est la première fois qu'une Coupe du Monde se tournait en terre musulmane. Qui plus est, ils ont bénéficié quand même d'une certaine chance, dans la mesure où le Maroc est arrivé, pays musulman, est arrivé en demi-finale. Preuve en est de ce coup géopolitique, je dirais, c'est la présence de MBS, le fameux MBS, Mohamed Ben Salman, qui est le président de l'Arabie Saoudite, et qui est venu serrer la main de l'émir Al-Thani. Alors que, souvenez-vous, il y a quelques années, il y a eu un blocus du Qatar tous les pays du Golfe qui voulaient étrangler.
Rupture de la relation.
Dernière question avec vous, Arnaud Tulipier.
Dimension qu'il faut bien voir.
Arnaud Tulipier, qui est toujours avec nous, il nous reste très très peu de temps. Pour vous aussi, ça va créer un précédent, c'est-à-dire que maintenant, voilà, le Qatar, comme d'autres pays du monde arabe, sont entrés dans le panorama des pays qui peuvent organiser ce genre de compétition.
Alors, c'était de moindre importance, mais on se souvient que les championnats du monde d'athlétisme avaient déjà été organisés par le Qatar. C'est un degré de moins, certes, mais voilà. Je vous invite à regarder qui a remporté les Jeux d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver la dernière fois. Évidemment que ces pays essayent de prendre des parts de marché, mais de l'importance. Il y a le Tour du Qatar qui est organisé par une organisation française. Il y a le Paris-Dakar par cette même organisation qui s'élance d'Arabie Saoudite. Enfin, voilà, ils essayent de peser. Et c'est vrai que ce qui plaide pour eux, c'est que dans ces cas-là, on oublie un tout petit peu les problèmes de droits de l'homme, etc. Et on ne retient que la bonne organisation. C'est le jeu. Après, à chacun de faire son devoir et à chacun de faire son travail.
Promis.
Merci beaucoup Arnaud Tulipier d'avoir été avec nous. Un tout dernier mot, Jean.
Oui, en fait, le géopolitique, c'est très dangereux, cette importance prise par le Qatar. Il faut rappeler que le Qatar est encore en lien et d'amitié avec les mollahs d'Iran. Il soutient la Turquie et il abrite l'organisation des Frères musulmans, qui est une organisation terroriste. Donc, il faut quand même relativiser ce succès et s'en méfier.
Très vite. Et qui c'est qui a armé le Qatar ? C'est la France.
Ah bah, c'est bien,
total, c'est 10%
sans
au
doute,
Qatar.
Sans doute.
Le pays... Qui est le plus implanté avec le Qatar, c'est la France.
Allez, on a bouclé la boucle. Merci, voilà, on s'interrompt tout à nouveau et on revient pour parler des actes contre les personnes homosexuelles, des actes d'agression qui sont en recrudescence. C'est assez inquiétant en Île-de-France. À tout de suite. Avant de reprendre les hostilités, si j'ose dire, on va retrouver Mathieu Devez pour le rappel des titres.
Deux trains sur trois rouleront ce week-end avec la grève des contrôleurs. Ils réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité du métier. Environ 200 000 personnes ne devraient pas pouvoir voyager sur 800 000 prévus dans les trains ce week-end. Les clients recevront par SMS et courriel des informations sur leur voyage. Elisabeth Borne lance un appel à la vaccination et au port du masque. Selon la Première ministre, la triple épidémie bronchiolite, coronavirus et grippe rend la situation particulièrement tendue dans les hôpitaux. Les admissions aux urgences et les appels au SAMU sont en augmentation de 20 à 30% avant les fêtes de fin d'année. En Argentine, les champions du monde ont été accueillis par une foule immense. Le bus des joueurs a entamé son défilé de victoire depuis le siège de la fédération vers Buenos Aires, où des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées. La journée de mardi a d'ailleurs été décrétée fériée.
Merci beaucoup Mathieu Devez. Les dépôts de plaintes pour des actes homophobes ont explosé en 2022. Écoutez donc, plus 40% dans la capitale, plus 116% dans un département comme le Val-de-Marne. Derrière ces chiffres, des agressions d'un tout nouveau genre avec de nouveaux modus operandi. Solène Boulan.
Les chiffres sont en hausse. En Île-de-France, 441 plaintes pour des actes homophobes et transphobes ont été déposées sur les 8 premiers mois de l'année, contre 284 sur la même période en 2021, soit une augmentation de 55%.
Au-delà des insultes, de nouvelles formes d'agressions physiques interviennent sous forme de guet-apens via des applications de rencontres.
Les agresseurs installent vraiment une conversation, une relation qu'on pourrait penser sincère. Et puis au fur et à mesure, la victime y croit. Et quand elle se déplace, malheureusement, ou sinon quand elle reçoit, en fait, ils sont 2, 3, 4, 5 et non plus la personne qui avait le profil en question.
Bien souvent, les victimes n'osent pas déposer plainte, peu convaincues par la réponse pénale.
Quand on voit la lenteur de la justice à statuer et puis encore l'appréhension des victimes à déposer plainte, ça déclenche chez les agresseurs un sentiment d'impunité qui du coup les incite à passer davantage à l'acte et à exprimer davantage leur homophobie.
Selon l'association FLAG, qui lutte contre les discriminations à l'encontre des policiers LGBT au sein du ministère de l'Intérieur et de la Justice, 96% des victimes d'injures n'osent pas porter plainte.
On parle de traquenard, là, hein. C'est bien décrit par cet intervenant. Jean Messia, à quoi faut-il l'imputer ? On sent qu'il y a un vrai repli conservateur dangereux dans ce pays en ce moment. C'est très difficile d'identifier de facto les auteurs de ces attaques horribles. Mais on sent aussi qu'il y a une certaine frilosité à porter plainte, peut-être aussi en raison de la lenteur de la justice.
Oui, disons que si vous voulez la recrudescence de l'homophobie, moi je vois deux aspects. Il y a d'abord effectivement les attaques des symboles LGBTQ qui sont, il faut dire, de plus en plus envahissants dans l'espace public. Donc là on attaque des drapeaux, etc. Donc là c'est plutôt une attaque envers l'envahissement d'un communautarisme LGBTQ. Mais par contre il y a des attaques homophobes, c'est-à-dire les attaques physiques.
Ad hominem.
Ad hominem. Et là c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave et, encore une fois, au risque de me répéter, la montée en puissance de l'homophobie en France, comme celle de l'antisémitisme, comme celle de la délinquance et de la criminalité, est liée au carburant apporté par certaines immigrations qui viennent en général de pays où l'homosexualité est criminalisée, qui appartiennent à un corpus religieux, politico-religieux qui criminalise et pénalise l'homosexualité. Et donc on importe à travers ces immigrations une vision rétrograde, si vous voulez, du monde dont les homosexuels et d'autres, les juifs, même les chrétiens, peuvent être victimes. Alors moi, je terminerai en disant que effectivement, les climatologues nous alertent depuis des années sur la conséquence des gaz à effet de serre, sur la perte de la planète. Moi, je suis un francologue. Et je dis qu'effectivement, l'apport continu de certaines immigrations mène la France à sa perte.
Georges Fenech, une minute chacun avant de conclure l'émission. Quel regard vous portez ? Quelle est votre analyse de ce phénomène ? C'est pas nouveau, mais il y a une recrudescence.
Je ne sais pas, j'écoute Jean Messia, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre... Il faut d'abord qui sont les auteurs, effectivement, quel est le profil.
On n'a pas de panorama.
Je n'ai pas d'études là-dessus, moi. Ça, c'est non, mais c'est son avis.
Il n'y avait pas d'homophobie.
Je ne sais pas qui sont les auteurs, en réalité. Ce que je constate, c'est effectivement l'explosion de ces types d'infractions qui est absolument insupportable, qui se manifestent de différentes manières. L'insulte, l'injure, les menaces, le harcèlement.
Le guet-apens, là.
Et le guet-apens. Mais qui sont ces gens qui organisent comme ça des guet-apens ? Au nom de quoi ? Est-ce qu'il y a derrière, effectivement, une organisation ?
Non.
Je n'en sais rien. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, la justice réagir de manière rapide et ferme contre ces actes qui sont absolument insupportables.
Monsieur Fenech, la question est simple. Est-ce que vous avez plus de risques lorsqu'un couple homosexuel se balade main dans la main dans des départements à majorité immigrée comme la banlieue lyonnaise, comme à Marseille dans les quartiers nord ou en Seine-Saint-Denis ? Est-ce qu'il y a plus de risques ? Ou s'ils se baladent dans un village de la Creuse ou dans un quartier tranquille de la banlieue parisienne, de la banlieue ouest en l'occurrence. La question est simple à comprendre.
Ludovic Toro pour la
Il y a un mot important qu'on a entendu, pas convaincu de la réponse pénale. Évidemment qu'on n'est pas convaincu. Pourquoi ? Injure publique, c'est 6 mois de prison, 22 500 euros. Vous pensez qu'ils sont tous, ils ont tous eu cette peine ? Personne n'a cette peine.
Oui.
Et je dirais une chose, en France, c'est acté libre choix de la sexualité. En effet, tous les acteurs religieux doivent passer ce message qu'en France, c'est comme ça. On ne peut pas passer. Donc, le silence, en fait, de certains me touche beaucoup.
Il y a certaines religions qui passent même le message contraire.
Je parle de toutes les religions, d'accord ? En France, libre choix de sa sexualité.
Non, mais attendez, M. Taureau, il n'y a pas de problème avec les religieux juifs religieux catholiques. Ils ont leur opinion sur l'homosexualité.
Je sais bien.
Je ne dis pas le contraire.
Mais
ils n'appellent pas à la violence.
Ils se voient. De plus en plus, toutes les religions se voient.
À ce moment-là, il faudrait qu'ils sortent des déclarations eux-mêmes, tous ensemble.
Merci à tous d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Dans un instant, Punchline. Laurence Ferrari qui va recevoir ce soir Hélène Geoffroy. On en parlait tout à l'heure, la maire de Vaux-en-Velin, sur la suite évidemment de l'enquête après ce terrible drame qui a coûté la vie à 10 personnes. Et puis je vous retrouve demain pour certains d'entre vous. Avec grand plaisir, 15h30, excellente fin d'après-midi et début de soirée sur l'antenne de CNews.